Mes frères bien-aimés, joyeux dimanche à vous tous, et oui. Et il commence bien puisque nous sommes partis pour une promenade en montagne, ou du moins en direction d'un joli mont devenu célèbre grâce au Christ et à la lumière qui resplendit au jour de la transfiguration. C'était le matin de bonne heure. Jésus s'était levé avec l'intention de rejoindre ce lieu en compagnie de ses plus proches que sont Pierre, Jacques et Jean. Pourquoi ces trois-là? Il est très difficile de répondre, bien que l'on puisse imaginer qu'il était nécessaire que Pierre, le premier pape, fût présent, que Jean, l'ami de cœur, le mystique de la bande, fût aussi du voyage, et que Jacques, encouragé par tant de lumière, soit capable aussi un jour d'offrir sa gorge à la hache des soldats d'Hérode, car il a été le premier des martyrs, après saint Étienne. Tous les quatre gravissent donc le mont Tabor avec la volonté de profiter de la nature pour s'enfoncer dans le silence et pour prier en grande paix, loin de l'agitation de la ville et du tumulte qu'offrait la venue des foules quand elles enserraient le Christ et ses apôtres. À peine arrivé au sommet du mont, le Christ, l'air de rien, fait quelques pas en avant. Il se sépare du groupe et en se tournant vers les siens, il se transforme en une torche vivante de lumière. Sa robe sans couture, qui est la robe du grand prêtre, est d'un éclat jamais entrevu ici-bas. Plus blanc que blanc, on ne peut pas aller plus loin. Quant à son visage, il n'est pas décrit dans l'Évangile, mais sans doute a-t-il été en osmose avec cette lumière. Il a resplendi d'une beauté jamais rencontrée. En un mot, son visage est devenu céleste. Spectacle éblouissant qui bouleverse les apôtres et qui n'a pas fini de les étonner. D'autant plus que vient de surgir auprès de leur Christ pas moins que deux prophètes, Élie et Moïse, qui tout naturellement s'entretiennent avec le Christ en niant l'espace-temps. À n'en pas douter, cette double apparition a pour raison d'être de manifester à la jeune Église que le Christ est bien le Messie attendu depuis des siècles par Israël, annoncé par les prophètes. Pierre, qui ne veut pas perdre cette évidence, peut-être à la seule fin d'en donner la preuve aux autres apôtres, dont certains peut-être doutent de l'origine divine du charpentier de Nazareth, propose que l'on installe maintenant, là, trois tentes dans lesquelles Jésus, Moïse et Élie prendraient place. Une belle idée. C'est étonnant, cependant, qu'il n'ait pas proposé une seule tente pour tous les trois. Non, chacun chez soi, chacun dans son siècle, chacun dans sa vie. Que personne ne se gêne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Saint-Pierre cherche à maintenir le miracle le plus longtemps possible, sous ses yeux. Mais Jésus, qui voit les choses autrement, réexpédie au ciel les deux prophètes, de manière à se présenter non comme un prophète, mais comme le Fils unique de Dieu, dont toute l'Écriture a parlé et a annoncé la venue. En fait, pour toute réponse à la demande de Pierre, faisons trois tentes, une nuée vient envelopper l'apôtre ainsi que ses deux compagnons. Une nuée de laquelle surgit encore une voix, celle du Père des cieux. Alors là, c'est incroyable, et cette voix leur demande impérativement d'écouter son Fils bien-aimé. C'est dire que tout le monde s'y met, Dieu le Père, Dieu le Fils, et les plus grands prophètes d'Israël pour convaincre, si cela était nécessaire, ces trois apôtres dont la foi ne doit pas défaillir. Il faut les convaincre que le Christ est le Fils du Père et le Sauveur d'Israël. Voilà ce qu'ils doivent retenir de cette mise en scène mystique et surnaturelle. Mais aujourd'hui, nous qui recevons ce récit, où en est notre foi dans le Christ? Est-elle indéfectible? Est-elle solide? Je l'espère. Et c'est pourquoi je vous bénis, pour qu'elle le soit encore toujours davantage. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche.